RMC.
Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement.
Il faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois. Mais...
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot, François Pinet.
Bienvenue à tous dans l'After, on est ravis de vous accueillir pour un nouveau numéro de l'After entre 22h et minuit. On vous accompagne si vous êtes en voiture, au travail peut-être, même à 22h, ou en vacances, bonnes vacances, vous avez la chance d'en avoir. Autour de la table, il a fait un petit peu de cryothérapie aujourd'hui, c'est François Manardo.
C'est vrai, bonsoir.
Bonsoir. Il avait besoin de ça.
Franchement, ouais. J'ai vu ton synthé, il était pas mal du tout.
Ah, c'est quoi? J'ai pas vu.
Si on peut le remettre.
Sur BFM Sport.
Ça m'a fait penser à ces pubs de nos grands-parents, du bon, du beau, du bonnet. C'est un peu dans cet esprit-là.
D'accord. Bonsoir, on verra ça. Bonsoir, François Manardo. Et puis, c'est l'un des plus grands joueurs de Ligue 1 qui est avec nous. 1m94 quand même, hein. Samy Traoré, bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Alors avec vous, au programme de l'After, on va parler dans un instant d'Atem Ben Arfa. C'est vrai, où il est Atem Ben Arfa? On se le demande puisqu'il a quitté le Paris Saint-Germain. L'ancien Parisien qui d'ailleurs t'a inspiré un avis tranché, François, on verra ça dans un instant. Je ne sais pas aussi si vous avez remarqué, mais de nombreux joueurs ont décidé de boycotter l'entraînement. La grève, c'est un truc que tu connais toi, François.
Oui, comment se dire, c'est des
Courtois, Kovacic, enfin bref, tout ça pour aller au clash avec leur club. Est-ce que les joueurs ont raison d'aller au bras de fer avec leur club? On en parle vers 23h30. La Première Ligue reprend vendredi. Arsenal change d'air avec l'arrivée d'Unai Emery. Est-ce que l'ancien coach du Paris Saint-Germain va réussir? Eh bien, c'est Samy Traoré qui va vous répondre. Et puis, à 3 jours de la reprise de la Ligue 1, la révolution est en marche. Une des grandes nouveautés, c'est la vidéo. On en parle à 23h dans l'After. On vous attend évidemment pour réagir au 32-16 sur le hashtag RMC Live sur Twitter. Et sur l'appli RMC, vous allez sur Direct Studio, vous nous envoyez vos messages et on les lira en direct. Évidemment, pour débuter l'After, on suit en ce moment un match amical, mais un match amical de gala. C'est Chelsea-Lyon et c'est avec Adrien Beria. Salut Adrien.
Salut.
Où on en est de ce Chelsea-Lyon?
Eh ben c'est la mi-temps, ça n'a pas encore repris. Toujours 0-0 à Stamford Bridge entre Lyon et Chelsea. Pas beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent. Quelques frappes lyonnaises, un beau coup franc du Brésilien Willian à la fin de la première période. Toujours voilà 0-0. Une équipe de Lyon qui devrait ressembler à celle de ce week-end avec pas mal de titulaires en face. Pourtant, par contre à Chelsea, beaucoup de jeunes. C'est un peu l'équipe B. On va voir peut-être des changements à attendre. Ça a toujours pas repris à Stamford Bridge. Toujours 0-0.
Ouais, alors il n'y a toujours pas Fekir hein, à Lyon qui n'est pas là évidemment. Mais en revanche, l'équipe ressemble, et il le disait Adrien, à l'équipe qui va débuter le championnat avec Lopez dans les buts, Dubois à droite, Marcelo et Morel dans l'axe central, Ferland Mendy à gauche, Ndombele, Touzard-Aouar au milieu de terrain, et puis la triplette de paille, Mariano et Bertrand Traoré.
Il manque, voilà.
Il manque Fekir.
Ah, ça va être vous manque. C'est rigolo, Adrien disait l'équipe B de Chelsea. Chelsea peut faire tout l'alphabet avec les effectifs qu'ils ont depuis des années.
Alors là, c'est vrai qu'il y a que Willian et Bakayoko
peuvent prétendre
aussi à des places de titulaire. Sinon, il manque Hazard, il manque Giroud, il manque Kanté.
Dans 48 heures, c'est
il manque Morata ce soir.
Je ne sais pas s'il joue Chelsea le premier. Enfin, je ne sais pas si c'est un match avancé le 9.
Alors, il joue samedi 11. Chelsea, ça sera sur RMC Sport d'ailleurs.
Évidemment.
Ça sera contre Huddersfield. Voilà. Où en est Atem Ben Arfa? Où es-tu, Atem Ben Arfa?
Mais
on
oui,
peut se poser la question. Des courtisans. Il y a des rumeurs, mais toujours rien pour Atem Ben Arfa depuis son départ du Paris Saint-Germain. On a parlé récemment de Rayo Vallecano qui pouvait être intéressé par le joueur de 31 ans. Lyon et Nice, ce serait pourquoi pas intéressé à un moment donné à son profil, mais toujours rien. Il y a des clubs turcs et des clubs chinois qui auraient été intéressés, mais Atem Ben Arfa ne semble pas l'être. En tout cas, c'est le moment de ton avis tranché, François. Jingle.
Tu peux trouver plusieurs angles. Avec deux doigts, tu peux faire quelque chose de sympa.
Qu'est-ce que tu parlais, bricolage, là?
Je parlais Subutéo. Mais non, honnêtement, il était là, Samy. En toute sincérité, je parlais Subutéo. Et dans la seconde d'après,
tu pensais plus et tu ne parlais plus Subutéo.
Le regard lubrique de Jean-Christophe Drouet. Là.
Ouais, mais tu l'as cherché en même temps.
J'ai compris.
Alors, ouais. François, t'as un avis tranché sur Atem Ben Arfa. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur Atem? Atem, tu l'aimes?
Oui. Atem, je l'aime parce que j'aime le talent. Mm. Et le talent, à ce degré-là, il est rare. Comme rares ont été,
ses saisons pleines, comme rare a été, malheureusement pour lui, et un peu pour nous aussi, quand on a envie quand même d'aller voir un match de foot avec des artistes. Là, là, on était plutôt bien payés. Rares ont été ces saisons régulières. On en compte une vraiment à l'OGC Nice. Et puis après, ça a été, et avant, surtout avant, pardon, des fulgurances. Je pense pas qu'on choisisse de faire une bonne saison dans sa carrière. Enfin, je pense pas, j'en suis certain. On ne choisit pas de faire une bonne saison, simplement. On ne choisit pas d'avoir des fulgurances. Inconsciemment, il a peut-être choisi la difficulté dans sa carrière. Il a fait des mauvais choix, nombreux, trop nombreux. Le dernier en date est le Paris Saint-Germain. Il s'est obstiné à vouloir prouver à Unai Emery qu'il avait sa place dans cet effectif. Ce que son talent lui permettait certainement, mais ce que sa façon d'être, son comportement, notamment auprès de Nasser, ne lui a absolument pas permis. Il a perdu un an et demi sur ses deux années de contrat à Paris, ce qui est énorme pour évidemment un footballeur. Qu'est-ce qu'il fait maintenant à Thème? Il est même pas au pied du mur. Parce que c'est quand il a été parfois au pied du mur qu'il s'est ressaisi. Non, il est sorti des radars. Il est nulle part. Il a 31 ans. Je suis certain que, enfin, à l'instar du vélo, le talent, le génie technique, ça ne s'oublie pas. Il est totalement, excusez-moi pour le terme, désathlétisé. Il peut revenir, parce que la condition physique, ça se récupère. Il faudrait beaucoup de temps, parce qu'il a aussi un jeu exigeant, mais ça se récupère. Mais il a aussi cet âge-là. Qui peut miser une pièce sur lui? En France, on le connaît très bien, mais est-ce qu'on veut prendre, entre guillemets, un risque? Aulas, parce que c'est son club formateur, évidemment. River à Nice, parce que c'est avec ce club qu'il a fait la plus belle saison de sa carrière. Et puis après, à l'étranger, je sais pas trop. Il pourrait se fier sur cette impression niçoise laissée il y a 3 ans. C'était quasiment le seul mec avec un maillot, tu sais, rouge et noir au milieu d'une flopée de Parisiens quand on avait l'équipe type de Ligue 1 à la fin de la saison 2016. C'est un joueur qui, par son génie, moi, m'a toujours fasciné. C'est rare de voir un mec avec ce potentiel-là. Je pense qu'il n'est pas totalement cramé. Il est encore temps de donner du plaisir aux spectateurs. Il est encore temps de donner du plaisir à ceux qui adorent ce sport, parce que son talent, et je me répète, est monstrueux. Moi, j'ai eu la chance de le voir un tout petit peu en équipe de France lors des séances d'entraînement. Alors, on va me dire, oui, mais les séances d'entraînement, c'est pas les matchs. Mais quand même, des fois, quand tu vois des entraînements, tu comprends qu'en match, ça va régaler. Il était absolument incroyable. Voilà. Il serait temps que il arrête de penser qu'il doit aller dans un grand club parce que son talent le mérite. Juste d'aller peut-être dans un club familial, bien encadré, bien entouré, où tout le monde lui montre de l'affection, tout le monde lui montre qu'on compte sur lui, parce que je pense que c'est que dans ces moments-là où Adem Ben Arfa peut donner le meilleur de lui-même, quand il sent qu'il a tout cet amour, et pas comme quand il est dans une grande usine parisienne, où il y a beaucoup de stars, où il y a beaucoup d'ego, et il sera pas la seule étoile. Et ça lui va pas comme formule. S'il y a encore une possibilité, que ce soit celle-là et qu'il la saisisse.
Alors, moi j'ai un club pour lui. Mais le problème, c'est que c'est un club anglais, donc le mercato va se terminer jeudi.
Après-demain soir.
Voilà, donc il faut qu'il se dépêche, ce club-là. En fait, le problème aussi, c'est qu'ils ont pris Ghezal. C'est Leicester. Pourquoi? Parce qu'il y a Claude Puel. Et il a eu sa meilleure saison sous les ordres de Claude Puel, à Nice.
Exactement.
Bah, parce qu'il aurait pu être une bonne solution. Mais ils ont pris Ghezal pour 14 millions d'euros. A priori, c'est pas dans les plans de Leicester de récupérer Adem Ben Arfa, même si peut-être qu'on aurait aimé voir Adem Ben Arfa à nouveau sous les ordres de Claude Puel.
Voir jouer au foot, simplement. Hein.
On a l'impression que c'est sa dernière chance, quand même. Tu dis, c'est la dernière chance.
31 ans, François, c'est pas une impression. C'est là sa toute dernière carte.
Samy.
Après, il va falloir qu'il trouve le club adéquat à son talent, mais ça se fera pas. Après, le Rayo Vallecano, je pense que c'est pas intéressant pour lui. Après, je sais pas, il y a quelques...
Et quand tu parles d'intéressant, tu penses à faire ton métier?
Ouais, non.
Après, être dans la lumière, non, en étant après, dans un club qui joue la Coupe d'Europe.
Ah oui, je pense que les deux saisons qu'il a faites au Paris Saint-Germain lui ont montré que c'était pas spécialement le but recherché d'aller dans un club aussi huppé que le Paris Saint-Germain. Après, je pense pas que le Rayo Vallecano soit le club. Moi, c'est mon avis personnel. Je pense qu'il va avoir quand même d'autres pistes. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il a pas joué. Il est pétri de talent. Il y a quand même un manager ou un entraîneur qui va lui faire confiance. À 31 ans, il est pas cramé. Il peut rendre énormément de services à beaucoup de clubs. Après, c'est la gestion de son cas un peu un peu au niveau du groupe, mais je pense pas qu'il fasse de problème au niveau du groupe.
Mais pas au niveau du groupe. Ça a été en fait. Voilà. Il faut rappeler.
Non, c'est une histoire.
Il est écarté pour une maladresse diplomatique.
Voilà,
c'est énorme.
Aussi
énorme.
Parce qu'Unai Emery peut-être ne voulait pas de ce joueur-là.
C'est
politique. Je pense c'est plus politique que sportif.
Quand on entendait Unai Emery, peut-être que c'était uniquement politique.
À la fin, ça devient.
Mais Unai Emery au départ, il se dit bon ben ce joueur-là. Il a envie d'être un peu libre sur le terrain. Il n'a pas envie de faire forcément les efforts défensifs qu'Unai Emery demandait à tout son effectif. Et donc, il ne rentrait pas peut-être dans le schéma de jeu et dans l'idée de la philosophie d'Unai Emery.
Surtout pas rentrer dans la tête de Nasser Al-Khelaïfi quand il s'est permis de blaguer auprès du président du PSG, l'émir Tamim, dans sa langue maternelle et en lui disant que c'était plus facile de parler avec lui plutôt que de joindre au téléphone le président délégué du PSG.
22h12 sur RMC, on est dans l'after, on parle en ce moment de Hatem Ben Arfa et Alvaro est au 32-16. Bonsoir Alvaro.
Bonsoir à tous.
Merci d'être avec
Alvaro,
nous.
Alvaro, bonsoir.
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 Alors sur Hatem Ben Arfa, comment tu imagines toi la suite de sa carrière qui pour l'instant est au point mort?
La suite de la carrière de Ben Arfa, c'est un peu difficile à imaginer pour tous. On aimerait bien voir, je pense, un talent comme celui-ci dans une équipe qui perd où il pourrait s'exprimer aussi bien qu'il l'a fait à Nice. Hein, je pense qu'on a tout ça un peu en tête. Moi, ce que je voudrais parler, c'est de savoir la réflexion que j'avais. C'était est-ce que le Rayo Vallecano c'était le bon choix? Là, franchement, j'ai beaucoup de doutes. Un club qui monte de D2 espagnol. Donc l'année prochaine, ça va être la bataille pour se maintenir. Est-ce que c'est le club idéal pour que Ben Arfa se relance? À mon avis, ça va être très difficile. Le championnat, je pense que c'est l'idéal pour lui, le championnat espagnol. On aime les joueurs de ballon, ça joue la balle est quasiment au sol tout le temps. Donc on aime ces joueurs techniques, ces dribbleurs. Donc le championnat pour lui, c'est un championnat idéal, hein, l'espagnol, je pense. Alors le Rayo Vallecano, là, je suis vraiment, j'ai beaucoup de doutes sur un club qui puisse le relancer. Je pensais beaucoup plus à un Valence, Séville, voire un niveau en dessous, le Celta Vigo. Mais alors Rayo Vallecano, là, c'est pas le conseil que je lui donnerais à Hatem.
On a l'impression qu'il lui faut un projet, Hatem Ben Arfa, un projet de jeu aussi. C'est-à-dire que lui laisser un petit peu, le laisser s'amuser aussi sur le terrain. Quand il était à Nice, pourquoi ça marchait aussi? Et c'est ce qu'il disait régulièrement dans les interviews. C'est parce qu'il avait l'impression d'être avec une bande de potes et d'être en bas de chez lui et de s'amuser sur le terrain. Mais il a besoin de ça.
C'est quand ça rigole dans une équipe de foot, que le Barça ou le Rayo Vallecano.
Oui, mais est-ce que c'est compatible avec le haut niveau?
Mais ça fait partie du haut niveau.
C'est ce qui te fait gagner.
C'est ce qui te fait gagner. Ça fait partie du haut niveau.
Le Real de Madrid, il gagne la Ligue des Champions de 3 années de suite. Pourquoi? Parce que c'est plus que des potes, carrément.
Oui, mais bon, pour Hatem Ben Arfa, il a besoin quand même de cette liberté, ce qui n'est pas le cas dans les grands clubs.
Liberté,
où souvent, il y a quand même, on demande aux joueurs de suivre strictement une stratégie.
François, je vais te répondre. La liberté, un joueur créatif, son entraîneur sera beaucoup plus enclin à la lui offrir qu'un joueur défensif. Tu peux pas dire à un défenseur, je vais donner de la liberté. Un joueur créatif, évidemment que tu donnes la liberté, c'est la base.
Imagine. Le défenseur, non. Toi, tu contrôles ton ballon, tu donnes à ceux qui savent faire.
Alors, pour aller dans le sens d'Alvaro, il y a Salim qui nous dit sur l'appli RMC Direct Studio, le club idéal serait Villarreal ou Valence, tu vois, ça va un petit peu dans ton sens, Alvaro, en Espagne. Ça serait pas mal, effectivement.
Ouais, et c'est vrai que dans le projet de jeu, il faut un projet de jeu aussi pour Athènes, c'est vrai. Et c'est pour ça que le Rayo, c'est compliqué, parce que ils viennent de la D2 espagnole où il y a ces 22 clubs. C'est une bagarre tous les week-ends, c'est très très dur. C'est pas l'année prochaine où on va avoir un jeu et des joueurs qui vont permettre de répondre à ce projet de jeu à Hatem Ben Arfa au Rayo Vallecano. Il faut vraiment quelque chose qui s'installe. Valence aurait été idéal. C'est vraiment bizarre que l'opération ne soit pas faite avec Valence. Je crois qu'il y avait quand même des touches avec Valence. Et je crois qu'il parlait un peu de sommes d'argent qui n'étaient pas les bonnes pour Valence, semble-t-il. Il n'y a pas un accord qui n'a pas été fait à ce niveau-là.
Mais Valence,
ça ressemblait à quelque chose de plus proche pour
Alvaro,
pour lui, quoi.
Ouais. Moi, de mon point de vue, un club qui participe à la Ligue des Champions tel que Valence, c'est trop compliqué aujourd'hui pour Hatem Ben Arfa.
C'est trop haut.
C'est trop haut, exactement. C'est un problème, parce que un club du calibre d'un club de Champions League, miser sur un gars qui a plus joué depuis un an et demi, qui n'a plus joué au football.
Ah, on rappelle, le dernier match, c'était face à Avranches en avril 2017 avec le PSG en
Non, mais c'est même pas que c'est pas évident, c'est que ça se fait même pas du tout, carrément.
Ça se fait pas.
Je suis en train de réfléchir tout à l'heure. Je vois pas une équipe qui
a... un défi tel que le Rayo Vallecano. Je veux dire, une ligue, une première division sur les quatre grands championnats européens plus la France, mais qui signe les yeux fermés. C'est pas une pression. Pour moi, enfin, c'est plus une question d'argent, hein, ça va.
Non, mais il a plus vraiment, il a plus vraiment un choix s'il veut jouer, en tout cas.
Mais qui signe les pieds, les yeux fermés.
On remercie Alvaro au 32-16 et Florian nous attend également sur ce sujet d'Atem Ben Arfa au 32-16. Salut Florian.
Salut tout le monde, salut Samy, content de savoir que t'es là, un grand supporter parisien, donc content de savoir que t'es là.
Merci, c'est gentil.
Et nous alors, François,
vous aussi, mais bon, voilà.
Je préfère.
Sportif,
non, nous,
non, on n'a jamais joué au haut niveau, hein, ça c'est sûr, ça se saurait. Florian, toi sur Atem Ben Arfa, quel est ton point de vue? Est-ce que tu l'imagines se relancer à 31 ans?
Alors, j'ai deux points de vue. Le premier, je vais vous l'expliquer, c'est les déclarations des joueurs du PSG l'année dernière concernant Ben Arfa à l'entraînement. C'est-à-dire... Ben Arfa est capable de dribbler tout le monde et c'est un joueur qui est mal utilisé. À côté de ça, il y a la personnalité de Ben Arfa qu'on connaît et tout ce qu'il a fait depuis sa toute jeune carrière, et Dieu sait si ce monsieur-là a du talent, un grand talent, et il s'est complètement gâché. Aujourd'hui, il a 31 ans. Pour moi, 31 ans par rapport au poste qu'il occupe, c'est trop vieux, c'est trop tard. C'est-à-dire que pour moi, il devrait aller, comme a fait Valbuena, aller à Fenerbahçe, ouais, dans un très bon club, essayer d'aller jouer une place en Ligue des Champions dans un club un petit peu moins médiatisé, qui puisse avoir une grande compétition pour se montrer sur la scène européenne, pour pourquoi pas refaire une fin de carrière dans un club européen qui vale le coup, entre guillemets. Mais pour moi, aujourd'hui, Valbuena, sur la scène européenne et sur la scène mondiale du football, il est grillé.
Ben Arfa.
Ben Arfa, pardon. Il est complètement grillé. Voilà, il est grillé, ouais, avec ce que vous avez dit tout à l'heure, avec ce qu'il a fait avec le PSG, à part Nice, où il a été quand même assez grandiose, et je suis d'accord avec vous, il avait une liberté, on lui donnait le ballon, comme on fait avec Neymar aujourd'hui ou avec Mbappé au PSG, on le met en lumière dans une équipe, et c'est ce qui s'est passé à Nice, et ça a particulièrement bien marché. Le problème, c'est qu'il s'est mis une épine dans le pied avec le PSG, il a un comportement qui est pas le bon, et derrière, bah, aujourd'hui, il a 31 ans, c'est un mec qui a un talent fou, qui avait un talent fou, mais avec tout ce qu'il a fait comme bêtise dans les clubs où il est passé, bah, aujourd'hui, on se dit, on fait quoi de Ben Arfa? Bah, pour moi, Ben Arfa, aujourd'hui, il doit aller dans un club, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, un club européen qui va jouer la Ligue des Champions, dans le top 3 en Autriche, en Turquie, voilà, un club où il peut se montrer quand même sur la scène européenne.
Mais en Ligue 1, il ferait des heureux, hein, tu sais, il n'y a pas besoin d'aller en Autriche ou en Turquie, hein.
Aujourd'hui, il va à Marseille. Marseille serait super content d'avoir Ben Arfa, parce que dans le projet de Marseille, avoir un mec comme Ben Arfa, ça rajoute du punch, ça rajoute de l'animation offensive.
Je vois pas où tu mets Atem.
Bah, à la limite, tu peux le mettre à Lyon aussi, hein. À part Marianne, avec Diaz devant, tu peux aller quand même rechercher un petit peu de parce qu'à gauche, ils ont même si Ipay qui est génial.
Florian, par rapport à ta remarque sur la Turquie ou l'Autriche, je rajoute encore même d'autres grands championnats, mais avec des clubs mineurs dans ces grands championnats. Aujourd'hui, il faut quand même, par rapport à
moi, j'ai un club pour lui.
Faut lui mettre les clés.
Il a trouvé un club,
Samy.
C'est peut-être ton club.
Non,
c'est ton club, non?
Jamais. Il a choisi.
Oui.
Je vois pas.
Tu veux pas essayer?
Il est trop fort pour nous. Non. Après, je le verrais bien dans un club comme le Celtic de Glasgow. Il joue le tour préliminaire de Ligue des Champions, quoi.
Ben voilà, exactement.
Pourquoi pas?
C'est un très grand club.
Ah oui, bien sûr. Mais il y a un petit peu de pression aussi.
Avec des supporters. Après, le championnat, mais
la bonne formule de ton idée, c'est que le Celtic, ça appartient comme ça à ces clubs qui ont un grand palmarès, bon, qui au niveau européen sont limités de par la pauvreté de la qualité du championnat écossais, mais en revanche, il a ce côté familial. Et Atem, s'il n'a pas cet aspect familial, bon, maintenant, je pense qu'il a compris, hein, la trentaine sonnée, mais ça ne marche pas, la greffe ne prend pas. Et après, il y a une chose aussi, si on parle, dans mon avis tranché, si je parle d'un phénix qui doit renaître de ses cendres, tu sais, tu renais rarement sur un trône, sur avec une cuillère dorée dans la bouche. Tu renais un peu dans la difficulté.
Ouais.
Et c'est cette difficulté-là qui peut être un moteur une fois de plus, mais la dernière... pour Atem Ben Arfa.
Après, il a 31 ans, il est pas vieux.
Oui, il est pas vieux,
Ça commence à être un tout petit peu déclinant pour son poste.
En tout cas, pour terminer sur Athem Ben Arfa,
c'est un petit peu derrière. Quoi.
On te remercie Florian d'être passé dans l'after. Merci beaucoup.
Salut Florian,
à bientôt sur RMC BFM Sport. Il y a beaucoup de propositions pour Athem Ben Arfa, donc on va faire voilà le jeu proposé.
Oui, on doit avoir
le
un
club
tout
pour Athem Ben Arfa. Alors par exemple, il devrait re-signer à Nice à nouveau, nous dit Chris SG sur le hashtag RMC Live.
C'est une idée.
Ben Arfa même à Amiens, nous dit Alan, c'est très bien, mais pas en Coupe d'Europe. Un club comme l'OM ou l'OL prendrait un gros risque avec lui. C'est un petit peu ce que
mais
tu
le risque de, en fait on c'est quoi le risque? Le risque c'est le fait d'avoir un joueur qui est pas en forme, hein, on est d'accord.
Oui, oui, oui.
Parce que dans le comportement
c'est une crème.
S'il va voir McCourt qui lui dire ce bizarre état, j'ai pas réussi à le joindre, ça va pas le vexer.
Vous voyez Ben Arfa trop beau, beaucoup trop. Athem, ce n'est pas un joueur de haut niveau mentalement, nous redit Alan sur le hashtag
RMC Live. Effectivement.
Ça, Ben Arfa à Bordeaux, nous dit Alexis 33, qui doit être un supporter des Girondins de Bordeaux.
Ça fait du bien.
Tout le monde veut le récupérer en fait, hein, mais pour l'instant il n'est nulle part. Voilà, Athem Ben Arfa.
Ça c'est les supporters qui veulent le récupérer.
Bah, bien sûr.
Les dirigeants c'est autre chose.
Oui, voilà, les supporters ils veulent parce qu'ils veulent voir du spectacle et tout le monde.
Ça veut dire que
tous ceux qui aiment le football aimeraient. On peut le dire. Voir Athem Ben Arfa sur les pelouses.
T'es prêt à payer ton billet pour aller voir ce mec?
Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont confiance en lui, c'est bien.
Ouais. The Wasabi qui nous dit, et c'est le dernier message que je lirai sur le hashtag RMC Live, Athem Ben Arfa pourrait faire du bien à des clubs comme Strasbourg ou Rennes qui ont un public qui pourrait lui convenir.
Évidemment.
Et puis certains ont fait la comparaison avec Johan Gourcuff qui va tenter de se relancer cette saison à Dijon.
C'est pas pareil.
C'est pas pareil?
C'est pas le même cas.
Bah, tu peux développer.
Non, parce que Johan Gourcuff a toujours été en activité, il a plus ou moins joué ou par rapport aux blessures. Là, ça fait quand même un an et demi qu'Athem, il a pas joué du tout.
Ok, bah c'est très clair. On revient dans un instant, dans l'after, avec vous. La première ligue, c'est vendredi, comme le championnat de Ligue 1. Et Unai Emery, vous le savez, a remplacé Arsène Wenger. Changement d'air total à Arsenal. Est-ce qu'Unai Emery, l'ancien coach du PSG, va réussir à Arsenal? Samy Traoré a son avis sur la question et vous le donne dans un instant, dans l'after. À tout de suite.
RMC, le super football show. L'After Foot, François Pinet.
On est de retour dans l'After jusqu'à minuit, vous le savez, avec François Manardo toujours là et Samy Traoré. Il fait frais ici, dans le studio. Ça doit te convenir un peu plus, François.
Oui, ça convient.
T'as pas l'habitude du soleil. Hein.
Si, j'ai l'habitude. Bon, un peu plus que toi, mais...
Non, comment ça?
Comment ça? On n'est pas né au même endroit, on va dire.
T'es né où?
À Tunis.
Ah oui, d'accord.
Et il fait un peu plus chaud qu'à Paris.
Tu sais pas où je suis né?
Bon,
je suis né à Paris, voilà. Dans la banlieue parisienne. Ça discute beaucoup sur le hashtag RMC Live et sur l'appli RMC Direct Studio sur Athem Ben Arfa. Vous pouvez continuer à nous envoyer l'opération Un Club pour Athem Ben Arfa.
Ouais,
allez-y.
Vrai. Un Club pour Athem.
Diopopop nous dit...
Hashtag, lance un hashtag.
Un Club pour Athem.
Un bon
voilà,
club
on lance
quand même,
le hashtag sur le hashtag RMC Live. Allez-y, pendant toute la soirée, vous pouvez nous donner vos idées. Ben Arfa à Saint-Etienne. Voilà, ils sont dans le profil de ces joueurs.
Mais tu vois
sur le retour, comme Debuchy.
Cité, Bordeaux, Rennes, Saint-Etienne, les tweetos ont parlé de Strasbourg. Ils ont pas la mémoire courte, hein. C'était déjà il y a plus de deux ans la saison extraordinaire à l'OGC Nice, mais qu'on le découvre pas. On le découvre pas à Athem à Nice. Il confirme ce qu'il a montré à Lyon et un peu par fulgurance à Marseille et un tout petit peu à Newcastle.
Allez, dans une vingtaine de minutes, on retrouvera Jordan Olivier pour le Mercato Show. Toutes les infos Mercato du jour avec des nouvelles recrues à Nantes et peut-être un nouveau départ à Monaco. Vous verrez ça. Mais d'abord, la première ligue qui recommence donc vendredi sur les antennes d'RMC Sport avec un très beau match pour commencer. Manchester United affrontera le Leicester de Claude Puel. Ça sera vendredi à 21h. Et même une affiche dès cette première journée. Il y a tellement de bons clubs qu'il y a pas mal d'affiches. Arsenal, Manchester City, ça sera dimanche à 17h à l'Emirates Stadium. Premier grand rendez-vous pour un certain Unai Emery, nouveau coach d'Arsenal depuis qu'il a quitté le Paris Saint-Germain. Et Samy, tu voulais parler de lui. Jingle.
Ça a surpris Samy quand j'ai appris que Umtiti c'était le beau gosse son surnom.
Pourquoi ça t'a surpris Samy?
Parce qu'il se fout de lui. Non, tu penses pas?
Ah, tu penses à rien?
Bah, pourquoi alors?
Tu fais une fixette sur Samuel Umtiti?
Non, j'ai pas fait une fixette, j'avais répondu à une question, mais... Je pensais qu'il se foutait de sa gueule.
Unai Emery va-t-il réussir à Arsenal? C'est ton avis tranché. En tout cas, on a besoin de savoir si pour toi, il va réussir ou non.
Je vais répondre oui, tout de suite. Comme ça, c'est clair. Après, je vais développer.
Après, c'est le principe.
Bien sûr. Après, je pense qu'un entraîneur comme Unai, qui aime autant son métier que lui, ne peut que réussir. Des entraîneurs comme Pep Guardiola ont réussi et continueront à réussir, bien sûr.
Mourinho, pareil. Et c'est de la trempe de ces entraîneurs-là, qui donnent beaucoup, qui sont passionnés, qui donnent du temps à leur métier, et qui sont très forts tactiquement aussi. Après, t'avais un petit club comme Séville. Tu gagnes pas trois fois l'Europa League, comme ça, pour rien. Mmh. Ça n'existe pas, sans travail, sans abnégation, sans sacrifice, c'est impossible. Quoi qu'il en soit, c'était pas une grosse cylindrée de FC Séville, il a quand même gagné trois fois. Ça démontre quand même les qualités qu'il a. Il a peut-être des défauts, mais faire gagner cet effectif-là trois fois l'Europa League, c'est vraiment l'entraîneur aussi, et forcément, il y est pour quelque chose. Premièrement. Deuxièmement, il passe au Paris Saint-Germain, où c'est un club à une dimension un peu plus costaud, avec des stars, ce qu'il n'avait pas l'habitude de côtoyer avant. Il a passé deux saisons, plus ou moins pour certains compliquées, mais pour moi, elles seront compliquées avec de la réussite. Premièrement, dans les trophées, il a gagné tous les trophées qu'on lui a imposés, à part la Ligue des Champions. Quoi, Pep Guardiola, je le recite encore une nouvelle fois, n'a pas gagné la Ligue des Champions chaque fois qu'il a disputé. Mourinho, pareil. Ferguson, pareil. Des grands entraîneurs, pareil. C'est un jeune entraîneur. Donc, il a été confronté à certaines situations qui l'ont amené à prendre de l'expérience 2 ans au Paris Saint-Germain. On lui a donné certains objectifs qu'il n'a pas remplis, c'est-à-dire gagner au moins une fois la Ligue des Champions sur ces 2 années. Mais à côté de ça, il a gagné toutes les coupes et le championnat. Il a rien laissé.
Ah, il a perdu une fois le championnat.
Il a perdu une fois le championnat.
Contre Monaco.
Ouais, contre Monaco, ouais, effectivement. Mais à côté de ça, il avait gagné tout. Il a tout gagné, sinon. Après, une exception de près, voilà, le championnat contre Monaco. Cette expérience qu'il a acquise là va lui faire énormément de bien pour son futur qui est Arsenal. Quand un entraîneur se fait virer du Paris Saint-Germain ou quel que soit le club en général, c'est rare qu'il retrouve un club aussi rapidement que Unai Emery a retrouvé Arsenal. C'est quoi, 4 jours après? Même pas une semaine après qu'il est nommé entraîneur d'Arsenal?
Enfin, en tout cas, c'est le départ de Arsène Wenger, oui.
Ouais, mais quoi qu'il en soit. Et donner les clés de la maison Arsenal à Unai Emery après le départ d'un monstre comme Arsène Wenger, c'est qu'il faut vraiment pas se tromper et vraiment être sûr de son choix. Quoi qu'il en soit, en général, tous ces grands clubs, à la perte de ces grands hommes, ont toujours eu des difficultés pour rebondir derrière. Manchester, c'est le dernier en date. Après le départ de Ferguson, ça a été difficile. Donc, faut avoir vraiment confiance en l'entraîneur que tu prends pour naviguer ce navire, cette barre. Mais attention, moi je pense une chose, c'est que il va réussir. Il a les clés pour réussir avec les joueurs qui seront à disposition de son discours. Il n'y aura pas de stars qui pourront aller à l'encontre de ses schémas de jeu ou ses schémas tactiques. Et voilà.
Ouais. Alors, il va réussir. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, réussir à Arsenal?
Réussir à Arsenal, c'est déjà essayer de retrouver minimum la Ligue des Champions. Ce qu'on sait est difficile.
Ils ont terminé 6e la saison dernière.
En Angleterre. Avec un Arsène en pente un peu descendante, avec un effectif qui était un peu en difficulté. Là, je pense que là, il aura son effectif, il a à disposition de l'effectif qu'il voulait, les recrues qu'il a eues. Et pour alors mettre ses schémas de jeu en place, je pense qu'il va réussir, c'est aussi simple que ça.
Est-ce que tu es aussi confiant pour Unai Emery, François, que ne l'est Samy?
D'abord, une petite chose que Samy a prononcé dans son avis que j'ai écouté attentivement, c'est que Séville n'est pas un petit club.
Non.
Séville a été il y a très
Je pense qu'il voulait comparer avec le Paris Saint-Germain.
Non, je comparais pas. Non, quand je parle de Séville, un petit club, c'est par rapport au Mastodon qui est le Real de Madrid, voilà, quand aussi, même, ouais. Le Bayern de Munich, le Manchester United, la Juventus. J'inclus le Paris Saint-Germain de loin aussi, quand même un petit peu.
Non, quand il est passé de sa vie au PSG, il a monté une marche, on est d'accord.
Ah, forcément, mais de toute façon, quoi qu'il en soit.
Il a monté, une marche.
C'est pas le même niveau, la qualité de l'effectif, voilà, par rapport à l'effectif.
Et là, encore une nouvelle fois,
c'est cette marche-là, d'ailleurs, sur laquelle il s'est un peu cassé la gueule, parce que Samy l'a dit. Question de vestiaire. Mais c'est toujours aussi une question de vestiaire. Sauf si tu arrives avec un charisme et une aura, qu'à mon sens, n'a pas Unai Emery.
Encore, ouais.
Unai Emery, c'est un homme entre, tu l'as dit, je suis d'accord, le travail acharné et une culture de la relation avec ses joueurs plus diplomate, moins galvanisante ou convaincante qu'un Guardiola, qu'un Ancelotti. Je pense que c'est ce qui l'a fait un peu perdre des matchs clé et le titre de champion. Tu l'avais oublié, Samy, François l'a rappelé, mais c'est vrai que ce titre de champion perdu, c'est quelque chose qui est resté en travers de la gorge d'Emery, mais pas seulement, aussi au niveau de la direction du PSG. Je pense qu'Unai peut réussir à Arsenal, parce qu'il va avoir un vestiaire moins politique, moins politisé entre guillemets que celui du Paris Saint-Germain.
Il y a quand même quelques fortes têtes. Il y a Mesut Özil, l'allemand. Il y a Pierre-Emerick Aubameyang.
Oui, mais tu sais qu'avec un nouvel entraîneur,
c'est des joueurs qui parfois vont être dans une phase un peu ce qu'ils veulent.
Alors, il y a deux choses. Ils vont être nouvel entraîneur, ils vont être dans une phase de séduction d'abord. Et je pense, comme Samy l'a dit, qu'il a beaucoup appris de ces deux années à Paris, où il n'avait pas l'effectif du FC Séville. Il a eu cet effectif parisien assez compliqué. On va peut-être s'en apercevoir. Peut-être, je dis bien, avec Thomas Tuchel. Unai, ce qui lui manque, sans doute, c'est, je crois, dans la relation avec ses joueurs. Quand à un moment donné, il est question d'aller, comme en Angleterre, avec les gros cylindrés, ou sur la scène européenne, à partir des 16e, à partir des 8e ou quart de finale, quand on parle de Ligue des Champions, avec les grosses équipes, on regarde les statistiques d'Unai Emery, au même titre que les statistiques que Samy a recitées 3 fois la Europa League successivement, ça ne peut pas être du hasard, ça n'est pas du hasard. Perdre aussi fréquemment qu'Unai Emery contre des équipes réputées plus fortes au niveau de l'effectif, comme Unai l'a fait, à une ou deux exceptions près, notamment le 4-0 à Paris contre Barcelone, mais sinon, ce n'est que des défaites avec le FC Séville, ce ne sont que des défaites aussi sur la scène européenne. C'est pas non plus du hasard. Donc je pense que on va voir s'il a gravi un échelon au niveau de son expérience parisienne, ou bien si c'est encore cet Unai qui, une fois que le travail est bien fait, et bien, et que le message est bien passé auprès des joueurs. Après, il y a quelque chose en plus dans la capacité à imposer ton message au niveau de ton charisme, au niveau de ton affect avec les joueurs. C'est des détails très très importants à ce niveau-là. Je sais pas s'il les maîtrise.
22h35 sur RMC, sur BFM Sport dans l'after. On va prendre Max, supporter d'Arsenal au 32-16. Salut Max.
Salut tout le monde.
Merci de nous avoir appelé pour parler justement d'Unai Emery. Toi, en tant que supporter d'Arsenal, ça te fait plaisir de le voir à la tête des Gunners?
Moi, au début, j'étais pas enchanté, hein, pour être tout à fait honnête. Moi, parce que justement, là, Samy Traoré, donc je suis très fan par ailleurs.
Mais il y a que des fans de Samy Traoré.
T'as fait appeler toute ta famille ce soir.
C'est pas tout ça de Samy Traoré.
C'est pas fini.
Samy Traoré, Gamel.
C'est mon cousin. C'est mon cousin.
Ah ouais, Florian Traoré.
J'ai pas envie de dire, donc je suis très fan des anecdotes, dans le vestiaire.
Ouais, merci.
mais bref, et en fait, non, moi j'étais plutôt comme Samy disait, quand il y a un entraîneur qui est resté aussi longtemps dans un club qui s'en va, c'est toujours compliqué. Il a dit avec Ferguson, on l'a vu. Donc moi j'avais un peu peur de ça et je me suis dit il faudrait qu'on ait un entraîneur pour faire une phase de transition. Et dans cette optique là je me disais, bah par exemple Jardim ce serait une bonne idée, Favre ce serait une bonne idée, on en a parlé d'ailleurs, et au final ça a été Emery. Au début j'étais pas très enchanté, mais après quand j'ai vu comment se dessinait le mercato d'Arsenal, quand j'ai vu les matchs de préparation, eh ben j'ai plutôt été séduit, parce que pour moi Arsenal c'est un club qui a une ADN, c'est une ADN de beau jeu, c'est une ADN de jeu offensif, de jeu international, avec des joueurs qui viennent un peu partout,
mais
des
qui gagnent plus,
etc.
Max.
Alors qui gagnent plus, mais justement le jeu était devenu à la fin de l'ère Arsène Wenger, qui pourtant j'aime de tout mon cœur, mais il s'était devenu stéréotypé, c'était devenu un peu ennuyant à regarder en fait, très honnêtement. Et j'ai retrouvé quelque chose de cette ADN-là dans les matchs de préparation. Donc il faut confirmer effectivement, mais je pense que Emery, moi je sais pas si je le vois déjà s'inscrire dans la durée, c'est-à-dire vraiment à long terme avec Arsenal, mais je pense que dans cette transition-là, il va faire du bien, parce qu'il va redonner un peu de cet ADN qui manquait au club. Et puis ensuite, s'il a franchi un palier ou pas, je sais pas. Il faut quand même pas oublier que le PSG, c'est un club qui est très à part, où il y a à mon sens un président qui n'est pas au niveau de qu'on pourrait espérer d'un club qui a des prétentions du PSG. Donc voilà, pour moi c'est à part, mais effectivement je pense qu'il a appris, c'est vrai. Et je pense qu'on va pouvoir se battre pour réintégrer le top 4 cette année. L'année dernière, on était très loin. J'ai jamais eu d'espoir qu'on serait dedans. cette année, je pense qu'il y aura match. Je sais pas si on le fera, mais il y aura match, et je pense que c'est la première pierre de ce nouvel édifice d'Arsenal.
D'accord. De toute façon, il va y avoir un effet renouveau, hein. Parce
forcément.
Que 22 ans avec le
bien
manager.
Sûr.
Non, forcément.
C'est une nouvelle ère qui s'ouvre.
Il va y avoir quand même quelque chose un peu neuf dont les joueurs aussi vont,
bénéficier.
Vont s'inspirer et bénéficier au départ.
Max, merci beaucoup d'être passé dans l'after.
Salut, Max.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
On a vu passer, sur BFM Sport, donc je le lis pour ceux qui sont sur RMC, qui nous écoutent à la radio. Les coachs espagnols en première ligue, bon, ça ne veut absolument rien dire. Il y en a qui ont réussi. C'est Pep Guardiola, évidemment, champion avec Manchester City. Roberto Martinez a plutôt réussi avec Wigan et Everton, l'actuel sélectionneur belge. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. C'est le cas de Rafael Benitez avec Liverpool. Il a bien réussi, beaucoup moins avec Chelsea. Actuellement, il est à Newcastle. Ouais. Et puis, ça ne marche pas du tout parfois pour des entraîneurs espagnols. Il faut surtout pas qu'Unai Emery suive l'exemple de Pepe Mel, qui a échoué à West Bromwich Albion, et Quique Sanchez Flores, qui n'est pas resté très longtemps à Watford. Sur Unai Emery, j'avais une question, avant juste de retrouver Paul au 32-16. Est-ce que prendre Unai Emery, c'est pas l'aveu pour l'équipe d'Arsenal que l'équipe a un petit peu rétrogradé dans la hiérarchie espagnole, anglaise, pardon. Ouais.
Non, moi je pense pas.
Non,
pas non, c'est pas un aveu.
C'est un choix.
Attention, moi j'aime bien Unai Emery, j'ai rien contre lui.
Non, mais c'est un choix.
Mais je me dis dans l'image, est-ce que c'est un choix vraiment ambitieux, justement?
Non, mais c'est un choix ambitieux. Après, il faut voir qui tu peux récupérer aujourd'hui. Des entraîneurs qui te font gagner, parce qu'il a quand même fait gagner 3 Europa League successivement, encore une fois, sur le marché, les 3/4 sont pris.
Ouais.
Qu'il y en ait qui se libère, dès qu'il y en a un qui se libère, bah, ils vont faire abstraction de ces 2 années à Paris, mi-figue, mi-raisin, parce qu'il y a des réussites au niveau domestique, il y a des échecs, il y a un échec, le championnat de France.
Et puis la Ligue des Champions aussi.
C'est quand même le titre le plus révélateur, parce que c'est sur la durée.
Le 6-1 reste marquant pour Unai Emery.
Malheureusement,
c'est pas le seul coup responsable.
Et il est responsable aussi en partie de cette statistique. Non, mais je pense pas que ce soit un choix comme un second couteau, presque. Absolument pas. Non, absolument pas.
Après, au principe où Arsène Wenger avait annoncé son départ, la plénitude de noms qu'on a entendu, mais il y avait des gros entraîneurs.
Ouais, bien sûr. Ils ont choisi Unai Emery, par exemple, au détriment d'un Laurent Blanc qui cherche toujours un club, alors qu'il était passé avant lui au Paris Saint-Germain.
Ouais, là, pour moi, pas la même mayonnaise, les amis.
D'accord. Unai Emery,
si c'est au-dessus de Laurent Blanc. Si c'est des résultats avec le PSG, plus en faveur de Laurent Blanc.
Non, mais d'accord. Mais, ça s'entend. Paul est au 32-16.
Ça s'entend.
Paul est au 32-16 avec nous dans
Paul
la salle. Salut Paul. Toi aussi tu fais partie de la famille de Samy ou quoi?
Non mais je voudrais rétablir une vérité, c'est-à-dire que j'ai entendu Jonathan qui disait hier soir que Samy a pas gagné un quiz, on en a gagné un avec Samy l'autre jour.
Merci.
Sur des pénaltys ratés avec les autres.
Merci,
je pense que Jonathan nous entend. C'est bien de rétablir la vérité. Bravo.
Merci Jo.
C'est super.
Non, ce que je disais hors antenne, c'est que déjà Unai Emery va avoir plus de temps qu'à Paris. Ça c'est sûr. On a vu la gestion d'Arsenal par les dirigeants les dernières années avec Wenger. Ils lui ont quand même laissé pas mal de temps pour finir un petit peu tranquillement. Donc je pense que Unai va avoir du temps à Arsenal. Malheureusement pour lui, je pense qu'il n'aura pas vraiment le droit de se louper. C'est-à-dire que Samy, tu dis qu'il a quand même tout gagné avec Paris, mais ces 2 gros échecs, c'est quand même louper un championnat contre Monaco qui n'était pas non plus l'immense favori au début de saison.
Oh, au début.
Et oui, évidemment, après la saison avancée. Et puis cette fameuse grosse claque de Barcelone, plein de fois il s'est désavoué dans le jeu, il était venu avec une espèce d'idée de 4-2-3-1 qu'il n'a jamais vraiment appliqué.
Niveau Barcelone, t'as vu, on peut pas expliquer.
Sûr,
après, t'as vu,
oui, bien sûr.
Après, s'il lui donne des consignes et les consignes elles sont pas respectées par les joueurs au bout d'un moment.
Oui, mais ça fait partie de son travail, ça, le management.
Non,
hein, quand
non
même.
Mais après, c'est pour
savoir
ça, c'est
passer ses consignes.
C'est pour ça, une nouvelle fois, que le vestiaire parisien est toujours plus difficile que celui d'Arsenal.
Sans doute.
Donc,
non, c'est clair.
Donc ça va lui servir d'exemple une
il
nouvelle fois.
Il a peut-être manqué d'autorité à Paris.
Ben
oui.
Ça va faire partie de son expérience, ouais, justement.
Ouais. Je peux te dire que les 2 années que j'ai passées avec le FC Séville, à bosser avec eux, ils te le disent. Ils adorent Unai, hein. Il leur a fait gagner des titres, hein. Mais ils se disent, pour le vestiaire du PSG, il n'était pas calme.
Ouais. Paul, oui, tu voulais dire?
Là où j'ai un petit doute, c'est quand on voit sa gestuelle à ce monsieur. C'est-à-dire que tu viens à Paris, t'as 3 Coupes d'Europe derrière toi, t'as vraiment bien figuré en championnat, t'as fait ce qu'il fallait. Et puis, on sent que même dans son discours, même dans sa gestuelle, tout basiquement, c'est pas quelqu'un qui est serein avec lui-même. Il est pas serein comme l'était un Laurent Blanc très maître de lui-même. Mmh.
C'est des comportements totalement différents de coach, ça, tu peux pas juger là-dessus.
Je dis pas le contraire aussi, je dis juste que c'est une impression.
Voilà, mais ça, moi je te dis tout de suite que ton impression elle est fausse. Parce que moi j'ai connu des entraîneurs qui pouvaient gesticuler et faire ce qu'ils voulaient.
Mais c'est les
une fois que t'arrivais à la mi-temps.
Non, bien sûr.
Du n'importe quoi.
Non mais les mecs
qui sont obligés de se corriger tout seul sur
les mecs, les mecs qui gesticulent, ils n'inspirent aucune confiance hein. Les joueurs, ils ont besoin de voir un gars calme
et
qui leur transmette de la confiance. Le gars qui mouline à la Sampaoli, ça énerve plus qu'autre chose.
Regarde Diego Simeone.
Il fait passer ses messages.
C'est un fatigué sur le côté. Ouais. Donc on va se dire la vérité.
Vous parlez sur le terrain. Moi, je parle même juste en conférence ou sur ce discours. On sentait que c'était quelqu'un qui n'était pas maître de.
Oui, il était peut-être pas à sa place. Il sentait peut-être pas à sa place, peut-être pas à l'aise dans le projet du Paris Saint-Germain. Merci beaucoup, Paul, d'être passé dans l'after.
Ciao,
merci beaucoup. Quelques messages très rapidement avant de passer au Mercato Show sur le hashtag RMC Live. Il y a Manu 7519 qui nous dit Unai Emery est tellement mauvais que le staff de Tourelle dit qu'ils ont récupéré de très bonnes bases pour travailler. Un peu d'ironie. Donc ça veut dire qu'il était bon. Richard Oxdy nous dit il y avait même Tourelle qui était réclamé à Arsenal. Il y a le renouveau d'Arsenal est comme un redoublement de classe, nouveau prof, nouvelle base. In Emery, we trust. Dit Ablablacar. Et puis à mon avis, Unai va réussir avec Arsenal. Le problème à Paris, c'est qu'il n'avait pas le soutien de sa direction. Et avec ça, il aurait vraiment pu faire mieux au PSG, nous dit Kams. Donc plutôt des pros Emery ce soir qui nous écoutent dans l'after sur RMC. On revient dans un instant avec les infos mercato. Ne bougez pas, surtout les supporters nantais, puisqu'on a des bonnes nouvelles à vous apporter. Un peu moins si vous êtes supporter monégasque. On vous dit tout de suite sur RMC BFM Sport. À tout de suite.
RMC, le Super Football Show. L'afterfoot.
22h46 sur RMC, sur BFM Sport. On est de retour dans l'after, toujours avec Samy Traoré et François Manardeau. À 23h, ne manquez pas le thème que nous allons aborder sur l'assistance vidéo à l'arbitrage. Ça, normalement, ça fait débat. La VAR qui arrive en Ligue 1 cette saison. Est-ce que ça va tout changer pour le championnat? Les acteurs de la Ligue 1 ont l'air plutôt satisfaits. On verra ça. Appelez-nous en tout cas au 3216 pour réagir sur le hashtag RMC Live sur Twitter. Ou encore, on attend vos messages sur l'appli RMC Direct Studio. Et puis il y a le quiz aussi hein, en fin d'after, le quiz de l'after pour jouer avec Samy et François Manardeau. C'est au 32-16 que ça se passe. On accueille Jordan Olivier. Salut Jordan.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
Alors méfiez-vous bonsoir. Jordan. François, je sais pas si vous avez suivi hein, François et Samy, mais avec Jonathan, on était là, on attendait Samuel Hippois et il a été bloqué dans le train. Et qui on a pris pour remplacer Samuel Hippois? Jordan. C'est Jordan qui a fait l'after avec nous. Il a été très bon d'ailleurs, un très bon remplaçant de Samuel Hippois. Mais on se demande si c'est pas lui qui a bloqué le train.
Donc
méfiez-vous.
Ah, faut se méfier Samuel la prochaine fois.
Hein. T'inquiète pas.
Hein. Il cherche à vous prendre votre place, en quelque sorte. Alors Jordan, le Mercato Show, on va commencer par la Nantes qui continue d'être active sur le marché des transferts, puisque les Canaries ont confirmé aujourd'hui l'arrivée de Majid Waris.
Oui, l'annonce a été faite aujourd'hui par le FC Nantes. Majid Waris qui est prêté un an, avec option d'achat par le FC Porto. Et il est rejoint par un autre joueur, Bochilia, le Monégasque, qui est également prêté avec option d'achat. Il a signé une prolongation de contrat avec Monaco et dans la foulée, il a été donc prêté au FC Nantes. Donc le FC Nantes qui se renforce offensivement. Et Bochilia, c'est la troisième recrue brésilienne de Miguel Cardoso, le coach nantais, après Fabio et Lucas Evangelista.
Ouais. Je suis très curieux moi par rapport à Bochilia, parce que avant qu'il se blesse, qu'il se fasse les croisés à Monaco, il était remplaçant, mais il avait fait de bonnes entrées,
il marquait,
très habile notamment sur les coups
de pied arrêtés. Il marquait beaucoup.
Et bon, une fois qu'il s'est fait les croisés, il n'est jamais revenu. Et là, si on lui prête sa confiance dans un club où il pourrait peut-être être titulaire,
même Majid Waris,
je suis très curieux. Mais ouais. Waris, on le connaît mieux.
Ça peut, avec Lorient, ça peut faire très mieux. Mal. Hein.
Oui, ça peut être pas mal.
Waris, Salah, ça peut marcher aussi hein, devant si Salah reste au FC Nantes.
Je crois plus en Waris qu'en Salah, moi.
Ah, Salah, c'est au moins une dizaine. Dizaine de buts par saison avec Salah. T'es jamais déçu. Hein.
Ah, c'est un bûcheron. Il va marquer ses buts. Il va mettre 7 de la tête. Il va enfoncer.
Bah justement, tout le monde. Vous parlez du FC Nantes et on va demander à Emeric, un supporter nantais, au 32-16. Salut Emeric.
Salut, bonsoir à tous.
On voulait te demander, comment toi qu'est-ce que tu penses du mercato nantais?
Ben moi je trouve que c'est vraiment pas mal. J'avais un peu peur au départ parce que le plus gros problème c'était quand même offensivement où je trouve qu'on était un peu lent et pas très efficace. Et là je suis rassuré avec Waris et Bochilia qui arrivent. Je trouve ça vraiment pas mal. Bochilia, j'ai énormément confiance en lui. Je trouve que c'est un très très bon joueur qui peut amener pas beaucoup de créativité. Franchement, j'y crois beaucoup en lui. Après, il manquerait quand même un ailier. Je sais pas s'il peut jouer sur les côtés, Bochilia.
un peu. Mais, il a joué comme ça, un peu avec l'AS Monaco sur le côté gauche, notamment.
Ouais, voilà. Après, voilà.
C'est pas un ailier de débordement. Hein.
Non, non, c'est, non, non,
ouais, c'est pas les qualités pour ça. S'il y avait un ailier de plus, je pense que ça serait encore mieux.
Ah, vous êtes gourmand. Mais, hein.
Ah, non. Ouais, ben toujours. On aimerait remonter un peu plus. Donc pourquoi pas. Ouais.
Bon, bah merci beaucoup, Aymeric, et bonne saison avec le FC Nantes. Et évidemment, on verra ce que donne Miguel Cardozo, qui est une des nouvelles têtes sur les bancs de Ligue 1, et on a hâte de voir ce que ça va donner. Avec Jordan, donc le mercato show d'Amiens cette fois, qui a annoncé l'arrivée de deux nouvelles recrues, deux joueurs qui ont participé à la Coupe du Monde en Russie.
Des internationaux, Rafał Kurzawa. Alors rien à voir avec Lévin Kurzawa, son homologue du Paris Saint-Germain. C'est un joueur polonais qui a participé à la Coupe du Monde, un match, une passe décisive quand même, c'est à souligner. Il s'est engagé pour 3 saisons avec Amiens et il a été rejoint par Emil Kraft, qui est lui un international suédois.
Suédois, oui. Ouais.
Exactement, international suédois.
Il fait semblant de savoir qui c'est, de se souvenir. Bon,
défenseur en provenance.
Oui, bien sûr, je vois qui c'est, évidemment.
Il a joué un peu plus de matchs, il a fait 2 matchs de Coupe du Monde. Donc oui. Voilà, 15 sélections pour Kraft. Et il vient de Bologne, en Italie, prêté par Bologne.
Oui, il s'en souvient bien, François, des matchs des Suédois. Non, il a joué, il était titulaire, hein, bien sûr. Moi, je m'en souviens.
Et je pense que Kurzawa, c'est une passe décisive contre le Japon.
C'est possible. C'est possible. Le Stade de Reims a enfin trouvé son attaquant. Il s'agit du Sud-Coréen Souk.
Souk s'est engagé. Il a même passé sa visite médicale aujourd'hui. Il devrait signer dans les prochaines heures au Stade de Reims. Alors, il était un temps annoncé du côté d'Angers. Des petites complications administratives l'ont empêché de signer pour le SCO. En tout cas, il rejoint le club de Reims qui cherchait un attaquant et qui l'a trouvé en la personne de Souk.
C'est bien.
3,5 millions d'euros.
C'est un joueur en profil très grand, plutôt bon de la tête, costaud.
Costaud.
Ouais, ouais.
Pas mal.
C'est pas mal pour le promu.
Et lui, il a joué la Coupe du Monde avec la Corée du Sud?
Non. Il ne semble pas.
Semble pas?
Non.
Il a joué tous les joueurs coréens.
Non, il n'a pas joué. Il n'a pas joué.
Bien sûr.
Jérôme Boateng. Tu connais Jérôme Boateng, François? Ça te dit quelque chose?
Oui.
Il est courtisé par plusieurs belles écuries européennes, notamment le PSG. Et l'Allemand, il aurait fait son choix en cas de départ du Bayern de Munich.
Tu l'as dit, François, courtisé par de nombreuses écuries européennes, dont le Paris Saint-Germain, Manchester United également, qui recherche un défenseur central. Il aurait donné sa préférence à Manchester United en cas de départ du Bayern de Munich. Alors, c'est une opération qui serait quand même difficile à boucler pour Manchester. Le Bayern demanderait 50 millions d'euros pour Boateng.
C'est une blague.
Pourquoi?
Mais ils ont pas vu la Coupe du Monde, Rummenigge Lyonnaise.
C'est pour ça que je dis que ça peut être compliqué.
50 millions d'euros. Mais autant dire qu'ils veulent pas le vendre et qu'ils veulent le garder.
Non, je pense pas qu'ils veulent le garder.
Mais 50 millions d'euros. Qui va mettre 50 patates? 50
millions. Mais vous vous rendez compte aujourd'hui, les chiffres. Pour un international allemand, même s'il a fait
à 50 millions,
même s'il a fait une mauvaise Coupe du Monde et que il est en déclin. Ouais. Attends, 50 millions pour un tank.
C'est vrai qu'il est lourd, mais quand même. Attends,
mais il est pas si vieux que ça.
C'est pas l'âge, mais je sais pas. Son régime alimentaire et.
Non, mais il a de l'expérience. Il a de l'expérience.
50 millions l'expérience.
50 millions, c'est trop.
50 millions l'expérience, c'est fini. Moi, je vous prendrai pas comme commercial.
Bon, en tout cas, si Manchester veut mettre le prix, ils vont être c'est leur problème.
Si quelqu'un veut mettre 50 millions sur la table
de Manchester
pour acheter
United.
Un déambulateur avec un mètre, demande.
Pour confirmer l'information, Manchester United est toujours en contact avec Yeremina. Donc, il y a deux pistes explorées par Manchester. Boateng et Yeremina.
L'un que l'autre, je peux convaincu. Enfin bon, bref.
Lyon qui affronte.
C'est Mourinho qui décide, c'est pas mal.
Lyon qui affronte en ce moment Chelsea, c'est presque terminé, à 0-0, sans Maolida, qui est resté en France pour éclaircir son avenir.
Il devait partir pour Londres avec ses coéquipiers pour effectivement disputer ce match face à Chelsea. Il a finalement été remplacé dans le groupe par Amine Gouiri, tout simplement parce que le staff lyonnais aimerait que le joueur éclaircisse sa situation. On sait qu'il est suivi par plusieurs clubs anglais, notamment Newcastle. L'idée, c'est qu'il éclaircisse sa situation le plus rapidement possible. De toute façon, elle va être très claire assez rapidement, puisque le mercato anglais se termine jeudi à 18h heure française. Donc, on devrait en savoir un peu plus sur l'avenir de Maolida dans les prochaines heures.
On va parler de Monaco parce qu'il y a Guillaume qui nous attend au 32-16. Keita Baldé, qui est arrivé la saison dernière à Monaco, pourrait repartir dès cet été?
Le Sénégalais, effectivement, pourrait repartir dès cet été. L'Inter serait prêt à l'accueillir sous forme de prêt avec option d'achat. Dans le même temps, Candreval, l'international italien de 31 ans, pourrait faire le chemin inverse. Il avait été acheté 30 millions à Lazio, Baldé. Ouais,
pas été inspiré là-dessus. Hein.
Alors l'année dernière...
Pourtant, il a des qualités. Hein.
Il a fait une saison, il a disputé 23 matchs, 23 matchs, 8 buts, 5 passes décisives. Ça reste une saison correcte, mais il n'a apparemment pas convaincu les dirigeants de le garder pour la saison prochaine.
Ouais, moi, il m'a donné, Samy, l'impression d'un joueur qui manquait vraiment de maturité dans le jeu, avec des qualités certes, mais c'est un joueur qui sentait pas beaucoup les coups. Quoi.
Très pour rapidement, on va prendre Guillaume qui est au 32-16, supporter de l'AS Monaco. Salut Guillaume.
Bonsoir à tous.
Merci beaucoup d'être avec nous dans l'After. Ça t'inquiète, toi, ce mercato monégasque? On voit beaucoup de joueurs partir et puis des arrivées avec des points d'interrogation encore.
Alors, d'abord, un petit aparté, même si je suis pas supporter parisien du tout, on peut se dire que quand on arrive à vendre Gezal 17 millions, 50 millions pour Boateng, c'est pas complètement absurde. Simplement pour Keita Baldé, effectivement, quand on prend le mercato monégasque, enfin, on va dire la politique monégasque est de revendre des joueurs avec du profit, en gros, Keita va être acheté au même prix va être vendu au même prix que ce qu'il a été acheté. Donc c'est pas une très bonne plus-value pour un joueur qui a montré, on va dire, énormément de qualité, mais de manière très ponctuelle, parce que sur un match, en fait, il faisait une ou deux actions d'éclat. Et par contre, un manque d'intensité sur le reste, un manque d'implication offensive sur le reste des matchs, et c'était à chaque fois la même chose. C'est-à-dire, on savait ce qu'il était capable de faire, mais c'est possible qu'il ait fini par lasser Jardim par son manque d'implication, son manque de répétition dans les actions. Donc, je suis un peu d'accord sur le fait qu'on a vu ce qu'il était capable de faire, mais d'un autre côté, c'est pas, on ne peut pas espérer de lui. Au vu de ce qu'il a montré, quelque chose.
Faut peut-être laisser la saison de transition, peut-être la saison pour s'habituer aussi à la Ligue 1.
Encore une fois, il a montré beaucoup de potentiel.
C'était pas un mauvais joueur à la Lazio, hein. Au contraire.
C'était pas un très bon joueur à la Lazio. Ok, c'était pas un mauvais joueur à la Lazio. Mais ça n'a pas marché en Ligue 1.
Guillaume, très rapidement.
Il y a une statistique que j'aime bien utiliser, qui est la statistique des expected goals. Et en fait, aussi bien à la Lazio qu'à Monaco, Keita Baldé avait le double des buts marqués par rapport à ses expected goals. Ça veut dire qu'il faisait très peu de choses, mais qu'il avait un taux de conversion qui était absolument phénoménal. Ouais. Donc, ça illustre parfaitement ce que je disais, c'est-à-dire des actions lumineuses de manière très ponctuelle, mais pas grand-chose. Après, pour revenir sur le mercato monégasque dans sa globalité, on a quand même un socle qui s'est installé en défense. En attaque, on sait à peu près ce qu'on vaut. Il y a un renouvellement avec des pépites qui vont arriver. Par contre, au milieu de terrain, je suis très très inquiet parce qu'il y a eu beaucoup de renouvellement. Ah oui. Et là, lors du trophée des champions, à Oulu, on sent qu'il y a potentiellement un potentiel, même s'il y a de la maturité à avoir.
C'est sûr que c'est difficile de remplacer Fabinho, Moutinho comme ça et Thomas Lemar. Ouais. Merci beaucoup Guillaume, merci d'être passé dans l'after, on est un petit peu pressé.
Bonne saison à vous.
Il y avait juste une nouvelle sur Paul Pogba, parce que visiblement le Barça ne lâche pas, mais on a du mal à croire que Manchester United va s'en séparer.
Barcelone aurait fait une offre pour Paul Pogba, 50 millions d'euros, plus Yerry Mina, plus André Gomes, ça semble clairement insuffisant pour le champion du monde. Donc offre refusée par Manchester United. A priori, José Mourinho ne veut pas s'en séparer. Mais ça n'empêchera pas le Barça, a priori, peut-être de revenir à la charge dans les prochaines heures avec une nouvelle offre.
On en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler. On en a beaucoup parlé hier dans l'after, d'ailleurs. Vous pouvez réécouter le podcast. Merci beaucoup, Jordan. On arrive à 23h dans l'after. On continue avec vous. Et la vidéo arrive, elle, en Ligue 1 dès vendredi. Plus d'erreurs, plus de polémiques alors. Les arbitres vont-ils être sauvés? On en parle dans un instant.
Absolument pas.
Sur RMC, à tout de suite.
RMC, le super football show, l'After Foot.